8 heures. Soyez les bienvenus sur France Inter, le journal Frédéric Métezeau. Bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, très chère Sophia Chikirou, la communicante de Jean-Luc Mélenchon. Sa société est soupçonnée d'avoir surfacturé certaines prestations pendant la campagne présidentielle. En direct, les révélations de Sylvain Tronchet de notre cellule investigation. L'analyse politique de Yaël Gauz. Un après Mélenchon est-il envisagé? Le Davos du désert déserté, de plus en plus d'entreprises annulent leur participation à la conférence économique de Riyad après la disparition du journaliste Khashoggi. Mais pas toutes, car le marché saoudien reste un Eldorado. À l'étranger toujours, une Libanaise candidate à un concours international de Miss, exclue par son pays car elle apparaît sur une photo avec sa concurrente israélienne. L'invité du grand entretien à 8h20, Nicolas, c'est le négociateur du Brexit pour l'Union Européenne.
Michel Barnier, et il a encore du travail, beaucoup de travail pour régler les modalités concrètes du divorce. Intervenez, dialoguez avec Michel Barnier, 01 45 24 7000.
Comment trouver un stage de troisième quand on n'a pas le réseau nécessaire? Le gouvernement lance un site internet dédié avec 12 000 annonces de stages à pourvoir. Il y en aura 30 000 à terme. Johnny le retour, depuis minuit 1, l'album posthume de l'idole est en vente. Et ce sera à entendre dans un quart d'heure.
France Inter.
La justice soupçonne donc des surfacturations lors de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Frédéric.
De la cellule investigation de Radio France. Sylvain, vous enquêtez depuis plusieurs mois. Première enquête sur France Inter en février. Et ce matin, vous nous révélez que la société de la communicante Sophia Chikirou aurait facturé très cher certaines prestations. Ces surfacturations présumées étaient au cœur des perquisitions de mardi matin.
Oui, Sophia Chikirou avait une double casquette sur la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Elle était à la fois directrice de la communication et prestataire via sa société Mediascope, qui employait une bonne partie du staff de campagne. Au total, Mediascope a facturé pour près d'1 200 000 euros. Et ce que nous avons découvert, effectivement, c'est que certaines prestations paraissent très chères. Par exemple, quand un employé de Mediascope mettait en ligne un discours sur Internet, ça prend à tout casser 10 minutes, c'est ce que vous faites quand vous postez une vidéo sur Facebook. Ça, c'était facturé 250 euros à chaque discours. Il y a eu 19 discours, 19 fois 250, 4550 euros. Il y a aussi, par exemple, le sous-titrage de vidéo. En général, ça vaut 15 euros la minute sous-titrée. Là, Mediascope faisait payer 200 euros la minute. Et puis, Sophia Chikirou elle-même aurait facturé son travail personnel à des prix élevés, en moyenne pour près de 15 000 euros par mois. À l'arrivée, c'est l'État qui a remboursé ses factures à l'association de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Ce que les enquêteurs soupçonnent, c'est que la communicante ait volontairement surfacturé ses services en profitant de sa position singulière dans cette campagne, à la fois donneuse d'ordre et fournisseur.
Sylvain Tronchet, l'avocat de Sophia Chikirou dénonce, je cite, une opération politique. Sa réponse écrite à nos questions est à lire sur franceinter.fr. Depuis la rentrée, Jean-Luc Mélenchon fait parler de lui, beaucoup parler de lui, avec des sorties plus ou moins préparées. Petite sélection.
Le plus grand xénophobe qu'on ait, c'est quand même lui, monsieur le président de la République française.
La République, c'est moi! Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte!
Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous ne savez pas de quoi vous parlez.
Dans l'ordre chronologique, Emmanuel Macron, traité de xénophobe à Marseille le 7 septembre, le coup de sang lors des perquisitions mardi matin et le mépris affiché pour une consoeur à l'accent du Sud-Ouest à l'Assemblée mercredi. En 6 semaines, donc, des insultes au président, aux policiers, aux juges et aux journalistes. Bonjour Yaël Gauz.
Bonjour Frédéric.
Chef du service politique de France Inter. Yaël, le débat s'accélère à gauche. Certains se demandent s'il ne faut pas préparer l'après Mélenchon.
Une interrogation qui monte, y compris au sein de ses troupes, avec ce comité des insoumis démocrates qui se réunit dimanche à Paris. Le silence éloquent aussi de députés comme Clémentine Autain ou François Ruffin, mais ça phosphore surtout à l'extérieur, du Parti communiste au philosophe Raphaël Glucksmann en passant par Benoît Hamon. Tous ont vu Mélenchon perdre ses nerfs en direct. On ne peut plus laisser la gauche à ce type-là. Voilà ce qu'on entend dans tous ces cercles, divers et variés, très variés, trop éclatés, c'est là la limite. Rien n'arrête Mélenchon puisqu'en face, l'alternative à gauche n'est pas prête, elle est multitête. pour l'instant, car c'est en train de bouger. Tout le monde se dit que faire chacun sa liste dans son coin pour les européennes, c'est absurde. Mélenchon, principal responsable du rassemblement qui s'organise contre lui, il fait tout pour réveiller ses adversaires. Un jour, il veut être central à gauche, heureux d'accueillir ses vieux amis socialistes. Le lendemain, c'est le bruit et la fureur, le peuple contre les élites, interdiction de signer une pétition en soutien aux migrants ou d'entrer dans un groupe transpartisan à l'Assemblée alors qu'il s'agit simplement de lutter contre le réchauffement climatique. L'autre fragilité de Mélenchon, c'est qu'il n'a rien organisé pour la suite, l'après 2022. Si les choses devaient mal tourner pour lui, ce serait le chaos chez les insoumis. On n'en est pas là. D'après l'état-major LFI, les adhésions sont en forte hausse, plus 1000 depuis mardi, depuis les perquisitions. On parle là de signatures électroniques sur le site internet. Pas de quoi inciter le bouillonnant Mélenchon à baisser d'un ton.
Merci Yael Gauss. Campagne Mélenchon, les chers services de Mediascope. C'est un dossier multimédia à retrouver sur franceinter.fr. Nos explications, des documents et des témoignages d'anciens salariés de la campagne du candidat insoumis.
Il est 8h05, l'actualité à l'étranger. Il semble certain que Jamal Khashoggi est mort.
Déclaration de Donald Trump à des journalistes qu'il interrogeait hier soir sur la disparition de ce journaliste saoudien du Washington Post. Selon l'agence Reuters, la police turque fouille une forêt près d'Istanbul à la recherche du corps de Khashoggi. Il pourrait y avoir des conséquences sévères, ajoute Trump. Comprenez sévère pour l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, ça a commencé avec les défections pour le forum économique de Riyad. Le ministre français de l'économie Bruno Le Maire n'ira pas, tout comme son homologue américain et des chefs d'entreprise français. Mais tout de même, Hélène Philly, certaines grandes firmes sont embarrassées.
Il faut marquer le coup, attendre que Riyad ait conduit une enquête fouillée et crédible sur la disparition de Jamal Khashoggi avant de s'afficher dans le royaume. Voilà comment les entreprises expliquent pour la plupart le choix de leur patron. Ni Frédéric Oudéa de la Société Générale, ni Jean Lemierre de BNP Paribas, ni Patrice Ken de Thales ne seront présents. Et chez EDF, on reconnaît que la réflexion est en cours. Mais seront-elles totalement absentes, ces entreprises? Certaines ont tout de même décidé d'envoyer un représentant. Chez Thales, ce sera le président de son activité spatiale, Jean-Loïc Gall. La Société Générale, elle, a un bureau sur place. Marquer sa préoccupation est une chose, préserver ses intérêts en est une autre. Glisse-t-on dans une grande entreprise où l'on avoue une solution un peu bâtarde, mais une précaution nécessaire, car pour certaines, le Moyen-Orient est un marché vieux de 50 ans et Mohamed Ben Salman a déjà montré qu'il savait manier l'arme économique. Le prince héritier a gelé tout nouveau commerce avec le Canada l'été dernier, après ses critiques sur une vague d'arrestations de militants des droits de l'homme.
Donald Trump, on en reparle. Donald Trump, arroseur arrosé, les États-Unis saisissent l'Organisation mondiale du commerce après les représailles européennes, chinoises, canadiennes et mexicaines. Ces pays avaient décidé de surtaxer l'importation de produits et de biens américains après que Trump avait augmenté les droits de douane sur de l'aluminium venu de l'étranger. Quand la politique s'invite chez les Miss, la candidate libanaise du concours de Miss Terre pour sensibiliser à la protection de l'environnement. Cette jeune femme libanaise a été disqualifiée du concours par son propre pays. La raison, une photo où on la voit avec sa concurrente israélienne. À Beyrouth pour France Inter, Aurélien Colli.
Un cliché amateur pris dans un hôtel, les deux femmes sont bras dessus, bras dessous et font le V de la victoire. Liban, lit-on sur l'écharpe de l'une, Israël sur l'écharpe de l'autre. Une inscription que la candidate libanaise dit ne pas avoir vue alors que sa concurrente l'a abordée en lui parlant en arabe. Et pour cause, celle-ci a certes la nationalité israélienne, mais c'est une descendante de Palestiniens. Excuse non valable pour la société qui détient les droits du concours au Moyen-Orient et qui a disqualifié la candidate libanaise. La photo est inacceptable, choquante, l'hostilité historique entre les deux pays n'est pas que militaire, elle est aussi culturelle et dans les concours de beauté, selon sa patronne, une ancienne Miss Liban. Il n'en fallait pas plus pour que des responsables israéliens réagissent à leur tour. Un porte-parole du Premier ministre pour condamner l'apartheid libanais, un porte-parole de l'armée aussi pour attribuer la polémique au Hezbollah, qui préfère surtout, je cite, qu'on évite d'évoquer les sites de missiles près de l'aéroport de Beyrouth. Accusation portée par le Premier ministre israélien le mois dernier, démentie depuis par les autorités libanaises. On est bien loin de la promotion de l'écologie, mais pas tellement de la sensibilisation à l'environnement, l'environnement politique régional. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
Le nouveau PDG d'Air France va-t-il réussir son premier pari? Le Canadien Ben Smith a soumis un projet d'accord proposant une hausse générale des salaires de 4% dans la compagnie. L'intersyndicale demandait 6%, mais la plupart des syndicats devraient signer cet après-midi, sauf le syndicat national des pilotes de ligne, mais ça n'empêchera pas l'accord d'entrer en vigueur. Au début de l'année, les 15 jours de grève à Air France auraient coûté plus de 300 millions.
Il est 8h09, Frédéric. Emmanuel Macron l'avait promis, Promesse tenue.
Oui, il avait promis un site web pour diffuser 30 000 annonces de stages de troisième, car trop de collégiens qui vivent dans les quartiers difficiles n'ont pas le réseau ou les contacts nécessaires. Ce site, qui s'appelle monstagedetroisième.fr, est en ligne depuis hier, avec déjà 12 000 annonces pour commencer. On verra si cette plateforme est à la hauteur. Des attentes nombreuses. Claire Chaudière a rencontré des jeunes diplômés issus de ces quartiers en difficulté. Ils sont restés très marqués par cette épreuve du stage de troisième.
Aujourd'hui diplômés, Célia et Lélo, rencontrés sur un forum pour l'emploi à Paris, se souviennent encore parfaitement de cet immense moment de solitude.
Si papa ou maman ne travaillent pas à tel endroit, ou ne travaillent pas tout court, le cercle est vite restreint. On cherche, on appelle. Si on ne trouve pas de stage, on se sent nul, quoi.
Paniquée la veille de la semaine fatidique, Élodie se revoit.
Demander à une copine, est-ce qu'il y a de la place sur ton lieu de stage pour que je puisse un peu m'incruster
Souvenir de boutique ou de supermarché tout de même relativement accueillant.
On vient de banlieue, donc de la cité, donc c'est vrai qu'on était tous dans les trucs comme ça, hein, une grande enseigne de prêt-à-porter, supermarché. Et c'est vrai que du coup, quand j'en parle avec des amis qui, elles, ont des parents qui sont médecins, etc., bah, elles ont fait dans la clinique. Ou c'est le parrain qui est avocat et qui t'emmène au tribunal.
Stevens, lui, a encore en mémoire le réflexe qui a été le sien.
Il y en a qui m'ont conseillé d'aller à la mairie.
Et la mairie l'a renvoyé vers une école primaire du secteur, à mille lieues de ses aspirations, expériences tout de même enrichissantes. Ce n'est pas toujours le cas.
Je m'occupais de tout ce qui était rayonnage.
En fait, on se rendait bien vite compte qu'on était juste de la main-d'œuvre en plus. Ça nous a marqué le stage de troisième.
Alors pour continuer d'étoffer cette nouvelle plateforme, donc, le gouvernement appelle les entreprises à jouer le jeu de l'ouverture en alimentant encore le site en stage. Il ne concernera dans un premier temps que les collégiens en REP+, soit 45 000 jeunes à travers la France.
Et je vous redonne l'adresse de ce site, monstagedetroisième.fr, monstagedetroisième tout attaché.fr. C'était un reportage de Claire Chaudière. Le maire de Ramatuelle et le conseil départemental du Var portent plainte après la pollution de plages par des boulettes de pétrole. Porquerolles, Cogolins ont vu cette mini marée noire arriver sur leur plage hier après Saint-Tropez ou Ramatuelle. Le préfet pense qu'elle a été provoquée par une collision entre deux bateaux tunisiens et chypriotes au large de la Corse. Une centaine d'agents nettoient les plages alors que les touristes sont encore nombreux en cet été indien. Le budget des sports ne baissera pas. Déclaration ce matin de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, chez nos confrères de France Info. Les députés examinent ce budget à partir d'aujourd'hui. Et ce matin, dans l'équipe, une centaine de personnes, dont des présidents de fédérations olympiques ou des sportifs, signent une tribune. On y retrouve par exemple Renaud Lavilloni, Kevin Mayer ou Marie-Josée Pérec. Tous s'inquiètent de baisse drastique du budget. Roxana Maracineanu se veut donc rassurante.
On a vraiment assez d'argent pour travailler aujourd'hui. La baisse qui peut être constatée aujourd'hui, c'est dû au fait qu'il y avait une surestimation l'année dernière qui n'a pas été consommée. C'est comme si on partait avec un billet de 50 euros pour faire ses courses et puis qu'on nous donne 10 euros et ces 10 euros, on ne veut pas les annoncer et qu'aujourd'hui on vient me redemander 50 euros pour pouvoir faire les courses alors que je vais en utiliser que 40.
Donc il y a bien une baisse l'an prochain tout de même.
Il y a un redéploiement des moyens aujourd'hui au sein de ce... Il y a 40 millions d'euros en tout. Il y en aura 25 millions qui vont être mis sur la haute performance, 15 millions qui vont être mis sur le développement des pratiques et aujourd'hui ou lundi, je serai avec M. Darmanin sur le banc de l'Assemblée pour défendre des moyens supplémentaires. Je suis arrivée avec mes actions prioritaires et on va me donner les moyens supplémentaires pour les réaliser. Le budget ne baisse pas.
Le budget ne baisse absolument pas.
Pas du tout. On a les mêmes moyens d'intervention que l'année prochaine et on va aller sur les bancs de l'Assemblée que l'année dernière et on va aller sur les bancs de l'Assemblée pour défendre plus.
La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, elle était ce matin sur France Info.
Minuit. L'heure de Johnny.
Le voilà, l'ultime album de Johnny Hallyday, album posthume de Johnny mort il y a presque un an. C'est son 51e disque, 800 000 exemplaires ont déjà été tirés et devraient très vite trouver preneur. Certains magasins sont restés ouverts tard hier soir pour vendre Mon pays, c'est l'amour. On y retrouve là toute la palette du chanteur, tous ses styles, toutes ses préoccupations. La voix est puissante et forcément, Jacqueline Pétros, forcément, on n'écoute pas ce disque comme les autres.
Si jamais on me dit ça, tu le mérites, je l'ai sûrement cherché.
Malgré ces paroles de « J'en parlerai au diable », l'entourage du chanteur répète que ce n'est pas un disque testament. Johnny voulait des chansons taillées pour les stades où il comptait rejoindre ses fans, son carburant. Yodelis a donc concocté pour le taulier, avec sa garde rapprochée, un retour aux sources comme pour « Made in Rock'n'Roll » ou « Mon pays c'est l'amour », titre de l'album.
Je viens d'un pays où j'ai choisi de naître, un bout de paradis que tu connais peut-être. Je viens d'un endroit sans drapeau ni frontière.
Balade country, bon vieux rock, Mallory et Le Sourd ont fait du sur-mesure. La voix est encore puissante sur les riffs des guitares de Pardonne-moi. Mètres carrés, je ne suis qu'un homme, la force est presque inattendue, mais on n'écoute pas cet album comme les autres, il touchera les fans au cœur, il faut oublier les faiblesses de certains titres variétés ou d'instrumentaux sirupeux, car ce dernier disque met avec panache un point désormais final à une carrière de légende.
Encore un peu de Johnny, l'album s'appelle Mon pays, c'est l'amour, et je la cligne près de Pétrose. J'en bafouille, Jacqueline Pétrose l'a écouté pour nous.